Alexandre, il n'y a rien qui marche. Je vais lire dans la parole de Dieu ce verset de Josué, Josué 24, 15. C'est la fin du livre de Josué dans l'Ancien Testament. C'est tiré d'un discours que Josué a fait à tout le peuple hébreu. Je vais lire au verset 14 pour le contexte. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Un verset très connu des Écritures. Et le peuple des Israélites avait conquis une partie du pays, de la terre promise, et il se trouvait maintenant devant une étape cruciale, et il fallait qu'ils s'installent et qu'ils aient une nouvelle vie. Ils avaient passé 40 ans dans le désert, à tourner dans le désert du Sinaï. Ils étaient rentrés dans le pays et ils avaient dû faire face à des ennemis redoutables. Mais Dieu leur avait accordé des victoires et la paix. Ils pouvaient désormais commencer une nouvelle vie dans la terre promise. Mais avant de commencer une nouvelle vie, ils avaient besoin de savoir où ils en étaient. Ils avaient besoin de... pour avancer, d'avoir une bonne direction. Et Josué leur dit, maintenant, il faut choisir qui vous voulez servir, qui vous voulez adorer, qui vous voulez suivre. Les dieux de l'Égypte, les dieux des Amoréens, ou Yahvé, l'Éternel. Visiblement, dans le peuple, tout le monde n'était pas au clair à ce sujet. Si Josué en parle, c'est qu'il y avait toutes sortes de personnes dans le peuple hébreu, toutes sortes de convictions et de foi. Certains, à mon avis, étaient là avec le peuple, mais ils n'aimaient pas l'Éternel Dieu. Ils servaient les dieux qu'ils avaient connus en Égypte. Il y avait beaucoup de divinités en Égypte. D'autres servaient les dieux des Amoréens. Et là, il y avait des divinités horribles, hein. Baal, etc. Ces dieux qui réclamaient les enfants, Moloch, hein. Et puis, il y avait les Israélites qui avaient découvert le Seigneur et qui voulaient suivre Yahvé, l'Éternel. Comme Josué, il dit, « Moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Et sous-entendu, lui seul. Il y avait certains qui avaient peut-être plusieurs dieux en même temps. Ils avaient Yahvé, l'Éternel Dieu, et puis ils avaient certains dieux d'Égypte. Ils se sont dit, « Plus j'ai de dieux, plus... » ça marchera pour moi si j'arrive à voir tous les tableaux. Ça va me donner une protection supplémentaire. Ça, c'est la superstition. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, un seul créateur. Il n'y a pas trois créateurs, deux créateurs. Il y a un seul Dieu, un seul créateur, l'Éternel. Le reste, ce sont des idoles, ce sont des faux dieux. Mais certains avaient fait ce mélange, ce syncrétisme, comme on dirait aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et c'est vrai que le nouvel an a un effet psychologique. Pourtant, qu'est-ce qui change? Quand on passe du 31 au 1, il n'y a rien qui change. Hein. La Terre ne s'arrête pas de tourner. Votre vie n'est pas bouleversée du jour au lendemain. Est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Mais psychologiquement, c'est comme si on ouvrait un cahier et on passe à la feuille blanche. On dit, ah voilà, j'ai toute une année, 2016, et c'est blanc pour l'instant. L'année 2015, j'ai raturé pas mal, il y a eu pas mal de choses faites, des bonnes choses et puis des mauvaises. Mais là, je peux démarrer à zéro à nouveau. Et c'est un peu le cas ici des Israélites. Ils avaient leur Josué qui leur dit maintenant, où est-ce que vous voulez aller? Qui vous voulez servir? Nous, nous n'avons pas Josué, mais nous avons celui qui porte le même nom en hébreu. Jésus. Jésus, c'est Josué hein, en hébreu. Yehoshua, Yahvé, sauve. Et notre Seigneur Jésus nous dit, qui voulez-vous servir? Qu'est-ce que nous allons écrire sur cette page blanche de 2016? C'est important de faire des choix. Il dit « choisissez ». Nos choix et nos décisions ont beaucoup plus d'importance qu'on ne l'imagine. Pourtant, je pense à Adam et Ève. Adam et Ève, ils ne réalisaient pas peut-être les conséquences de leur choix. Ève, elle a vu l'arbre interdit et elle trouvait qu'il y avait des beaux fruits, qu'il avait l'air très bon à manger et elle s'est approchée. Et là, il y avait le serpent qui était le diable qui l'a interpellée, qui a dit « C'est vrai que c'est bon, hein, cet arbre, ça a l'air bon. » Elle dit « Oui, oui, oui. » « Mais Dieu nous a interdit d'en manger, » dit-elle. Elle dit « Mais Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne fallait pas en manger, que vous allez mourir ?» Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme lui, vos yeux s'ouvriront. Et il a séduit Ève. Et Ève n'a pas réalisé l'étendue de sa faute, de sa désobéissance. Dieu avait dit « Vous ne toucherez pas de cet arbre, sinon vous mourrez. » Pourtant, c'est grave de mourir. Mais personne n'était jamais mort. Et elle a pris ce fruit, et en mangeant ce fruit, c'est pas le fait de mordre dans le fruit, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu, qui a entraîné la terre entière dans une catastrophe. La malédiction est venue sur la race humaine et sur la terre entière. Aujourd'hui, nous sommes pécheurs parce qu'Adam et Ève ont péché. Bien sûr, nous péchons volontairement. Dieu ne va pas nous accuser des péchés d'Adam et Ève. Ils ont fait leurs péchés, nous faisons les nôtres. Mais il y a quand même cette malédiction qui est entrée parce que quelqu'un a fait un choix stupide. Disons-le, c'était stupide. Et nous faisons des choix stupides qui ont des conséquences dramatiques parfois sur nous, mais aussi sur nos familles. Quelquefois, c'est sur le pays. C'est pour ça qu'il faut choisir. Mais dans nos têtes et intellectuellement, parfois, on est un peu confus parce qu'il y a la souveraineté de Dieu d'un côté et le libre arbitre de l'homme de l'autre. Alors, il y a des croyants qui sont parfois très fatalistes. Ils disent, de toute façon, Dieu décide tout. Quoi que je fasse, quoi que je choisisse, la volonté de Dieu s'accomplira. Inch'Allah. Tout est décidé, tout est écrit d'avance, donc je vais me laisser vivre, peu importe ce que je choisis, ça va arriver. Ça, c'est le fatalisme, c'est horrible, et ce n'est pas biblique, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit des gens fatalistes. C'est pourtant ce qui est vécu dans un certain nombre de religions, où même le mal est considéré comme venant de Dieu. Si j'ai tué quelqu'un ou si j'ai volé quelqu'un, ah, c'est parce que Dieu l'a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu que tu tues ou que tu voles. C'est ton choix, c'est ta décision, c'est ton mauvais choix. Mais il y a l'autre côté, hein, le pendule, fatalisme, et puis il y a le légalisme. Dans le légalisme, on dit, tu as intérêt à toujours faire le bon choix. Parce que si tu te trompes une fois, Dieu sera intraitable et tu seras puni pour l'éternité. Ça, c'est le légalisme où tout est mis sur l'homme, sur sa capacité à être saint. Est-ce qu'un homme peut être saint par lui-même? Non. Est-ce qu'un homme peut se rendre juste? Non. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Non. De même, vous ne pouvez pas enlever vos péchés. Nous ne pouvons pas enlever nos péchés et on ne peut pas avoir toujours le bon choix, parfait, être parfait en toute chose. C'est pour ça qu'il y a la miséricorde de Dieu. Dieu nous connaissant est miséricordieux et parfois, et heureusement souvent, il pardonne nos fautes et il nous remet sur le droit chemin. Donc tout ne dépend pas de nous, bien sûr, parce que Dieu est fidèle et Dieu est plus grand. Mais les deux idées coexistent. Dieu est souverain, il gouverne l'univers, ça c'est certain. C'est lui qui gouverne toute la création, tout l'univers, même Satan. Mais Dieu permet un certain nombre de choses, d'événements contraires à sa volonté, à sa justice et à sa sainteté. Pourquoi Dieu permet-il ces événements? La Bible nous dit parce qu'il patiente pour que tout le monde ait une chance d'être sauvé. Mais il y a un jour où ce sera l'heure de Dieu et Christ va revenir juger le monde, rendre à chacun selon ses œuvres. Et là, toute la création sera jugée, Satan sera jeté dans l'étang de feu, l'Antéchrist sera jeté dans l'étang de feu, et tous ceux qui auront suivi le mal seront punis éternellement. Mais Dieu patient, Dieu est miséricordieux, il nous laisse plein de chances de nous repentir. Mais c'est vrai que Dieu gouverne l'univers, mais de l'autre, nos choix ont une conséquence. Il y a ce verset de Galates où il dit « Ne semez pas pour la chair, mais semez pour l'esprit. Si vous semez pour l'esprit, vous moissonnerez la vie éternelle. Si vous semez pour la chair, vous moissonnerez la corruption. Ce que je sème pousse. » C'est un principe universel. Si vous plantez un pommier, vous n'aurez pas un fraisier. Vous aurez des pommes. Et si je sème pour le mal, je ne vais pas récolter le bien. Si je fais des mauvais choix, ça ne va pas m'amener à la bénédiction. Pour avoir la bénédiction, il faut aussi faire des bons choix. Et face à cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, nous sommes appelés à faire des choix, à prendre certaines directions. Le danger, c'est de ne rien choisir, de dire « moi, je ne choisis pas. Moi, je laisse les choses se faire. Je laisse le temps couler. Les gens vont décider pour moi et moi, je vais me laisser flotter. » Qu'est-ce que la Bible dit sur ceux qui se laissent flotter? Hein, c'est Jacques qui dit « celui qui doute est comme un morceau de bois qui flotte sur la mer. Hein » Qu'est-ce qui lui arrive? Pas des bonnes choses. Hein. Si vous n'avez pas un gouvernail, si vous n'avez pas une voile ou un moteur, vous êtes au milieu de la mer, la mort vous attend. Pour avancer, pour aller quelque part, il faut avoir un gouvernail et un moyen d'avancer. Et Dieu veut qu'on fasse des choix. Ne pas choisir, c'est déjà choisir, quelque part, le mal. Si on ne vise rien, on n'a rien. Le fait que notre création soit sous la malédiction, on le voit, par exemple, si vous laissez un bout de métal sans jamais l'entretenir, qu'est-ce qui se passe? Il rouille. Et même, il devient de la poussière, finalement, il disparaît totalement. C'est la même chose avec la vie. Si je laisse faire, les choses vont descendre. C'est toujours la pente descendante. Si je dis, oh, on verra ça plus tard, je prierai plus tard. Je penserai à Dieu quand je serai à la retraite. Ça, j'entends ça souvent. Et qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver à la retraite? D'abord, la retraite est repoussée de plus en plus. Elle sera bientôt à 75 ans. Mais qui te dit que tu vivras jusque-là? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut s'occuper de ton âme? Et on ne doit pas laisser faire le temps. Le temps joue contre nous souvent. Pas toujours, mais souvent. On doit faire des choix. Prendre des décisions, viser. Ceux qui accomplissent des choses sur notre terre sont des gens qui visent. Il y a un exemple un peu extrême, et je vous le donne pas pour le suivre, mais pour vous dire qu'il y a des gens qui ont une volonté et des choix vraiment extrêmes. Il y a ce couple américain, ce jeune couple, ils ont décidé de prendre leur retraite à 30 ans. Ils ont dit, voilà, 30 ans, nous avons des enfants, nous voulons bien nous occuper de nos enfants, donc on va arrêter de travailler à 30 ans. Vous me dites, mais ils sont fous, comment peut-on vivre sans travailler? Mais en fait, ils ont tout préparé d'avance. À partir du moment où ils ont fini leurs études, ils ont épargné un maximum d'argent, ils ont dépensé le moins possible. Ils avaient deux bons salaires d'ingénieurs, c'était des gens qui avaient fait des études, et ils ont économisé, mais alors comme personne. Ils n'avaient pas de voiture, ils allaient toujours en vélo, en bus, à pied. Et aux États-Unis, Dieu sait que c'est un défi. Ils ne mangeaient le moins de viande ou le moins de plats préparés. Ils n'allaient jamais quasiment au restaurant. Ils ont pris une fois des vacances et ils ont réussi, entre leurs études et leurs 30 ans, à épargner 800 000 dollars. Ces 800 000 dollars, ils les ont placés au fur et à mesure sur un compte avec des actions, etc., pour que ça rapporte un certain pourcentage. Ils ont rénover leur maison où ils habitaient. Donc, ils ont travaillé pendant toutes ces années à rénover une grande maison dans laquelle ils étaient. Il faut dire que les parents ont aidé à donner un apport pour acheter cette maison, quand même. Hein. Ils n'ont pas tout eu comme ça, voilà, par leurs efforts. Et quand ils ont rénové la maison, ils l'ont louée et ils ont pris une maison plus petite. Comme ça, ils avaient le revenu de leur argent épargné et le revenu du loyer. Et avec ça, ils disent, nous pouvons vivre sans travailler. Voilà. C'est un drôle de choix quand même de dire je ne vais pas travailler. Attention, c'est pour s'occuper de leurs enfants. Hein. C'est louable quelque part. Mais comme quoi, lorsqu'on choisit, lorsqu'on décide, on peut arriver à certains objectifs. Mais je ne veux pas faire du stage de motivation là, parce que ce qui cloche dans ces choses-là, c'est que tout peut arriver qui contredit vos choix. Ils auraient pu tomber malades, avoir un cancer, une crise cardiaque. Tout aurait pu arriver. Ils ont eu de la chance jusque-là, on peut dire. Ils ont eu la grâce de Dieu. Mais n'empêche qu'ils ont visé quelque chose et ils ont obtenu cette chose. En tant que croyants, nous devons aussi faire des choix. Viser, mais selon Dieu, évidemment. On va en parler juste après. Quel choix avons-nous? Eh bien, tous les êtres humains ont un choix fondamentale qui se trouve dans Deutéronome 30, 19. Ce sont les dernières paroles de Moïse. On a vu les dernières paroles de Josué, bien là, c'est les dernières paroles de Moïse. À la fin du Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Choisis la vie. Tout être humain a ce choix, la vie ou la mort. On ne peut pas être rebelle à Dieu et avoir la vie. Parce que la Bible dit que la vie est en Christ, en Jésus-Christ. Si on veut avoir la vie, il faut avoir Christ. Si on ne veut pas de Christ, on n'a pas la vie. On choisit la mort. On dit, mais moi, je ne veux pas la mort. Oui, tu ne veux pas, mais tu l'auras quand même. Parce que la vie, elle est en Dieu. On ne peut pas avoir le péché et le salut et le pardon de Dieu. Si on vient à Dieu, c'est en abandonnant ses péchés. Ça s'appelle la repentance. La conversion aussi. On ne peut pas dire « je suis mon propre Dieu, je fais mes propres choix, je fais ce qu'il me plaît » et ensuite, le jour de la mort, dire « Seigneur, veuille m'accepter au ciel. » C'est hypocrite. Si je suis mon propre Dieu, je décide mon éternité. D'accord ? Quand je meurs, qu'est-ce que je vais décider ? Rien du tout. Je ne suis pas Dieu. Personne n'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous avons assez d'orgueil pour penser des fois que nous sommes notre propre Dieu. Que nous pouvons tout contrôler, tout décider. Et même la mort, ça ne me fait pas peur. Mais on devrait avoir peur de la mort. La mort est un jugement. La mort, aucun homme n'a de force face à la mort. Tout le monde meurt. Personne n'a assez de force pour empêcher la mort dans sa vie. Mais quand on est avec Dieu, on a la vie éternelle. Il faut se déterminer, il faut choisir. Soit c'est notre rébellion, notre orgueil, soit c'est Jésus-Christ, la vie. Et j'aime l'appel de Dieu dans l'évangile de Jean, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Tant qu'on ne croit pas au Fils, on n'a pas la vie éternelle. On a choisi la mort. Mais il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux choisir ni la vie ni la mort. Mais il n'y a pas de troisième voie. Malheureusement, on pourrait dire. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être sans Dieu, mais avec la vie éternelle quand même. Et non, la vie éternelle, elle est avec Dieu. Si vous refusez Dieu, si vous rejetez Dieu et Jésus-Christ, vous rejetez la vie, vous allez vers la mort directement. La mort éternelle. On ne peut pas être au milieu. C'est le ciel ou l'enfer. C'est avec Dieu ou contre Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et il faut faire ce choix à un moment. Dieu a fait tout le chemin vers nous. Il est descendu en la personne de Jésus à Noël, hein, n'est-ce pas ? Il s'est incarné. Il est mort pour nous sur la croix à Pâques. Il est ressuscité et il nous appelle. Maintenant, c'est à nous de choisir. La vie ou la mort. Pour celui qui a déjà choisi, qui a déjà cru au Seigneur, les choix ne s'arrêtent pas là. Si nous sommes chrétiens, nous avons des choix. Par exemple, il faut choisir entre Dieu et le monde. En Jacques, chapitre 4, verset 4, il y a un avertissement. Jacques, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit les choses telles quelles en face. Il n'y a pas de confusion à voir. Jacques 4, 4. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous demandez, dit le verset 3, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il parlait à des croyants là, des gens qui se réclamaient de Jésus-Christ, mais qui suivaient leurs passions, leurs convoitises, les convoitises de ce monde. On ne peut pas suivre le Père et suivre les convoitises de ce monde. Alors il y a un conflit en nous, parce qu'il y a notre chair, notre vieille nature qui, elle aime les choses de ce monde. Elle aime ce qui brille, elle aime l'argent, elle aime le plaisir, elle aime la facilité, elle aime rigoler, elle aime faire les choses folles, elle aime être flattée, être glorieuse, elle aime la gloire humaine, elle aime toutes ces choses et... Il y a l'Esprit de Dieu qui, lui, il aime Dieu, il glorifie Dieu. Et Satan nous présente ce conflit en disant « Oh là là, regarde, avec Dieu, ta vie va être triste. Avec Dieu, mais tu ne pourras plus rien faire, tu seras complètement esclave, tu n'auras plus de liberté parce que tu devras obéir à Dieu tout le temps, tu seras sous la loi, ça va être terrible. » Mais Satan continue en disant « Si tu suis le monde, si tu suis tes convoitises, mais tu seras libre. » Tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras coucher avec qui tu veux, tu pourras t'enivrer quand tu veux, tu pourras t'amuser jusqu'à plus soif, vas-y. Et présenté comme ça, il y a certains chrétiens qui disent oh, c'est quand même plus amusant de suivre le monde que de suivre Dieu. Sauf qu'ils ont écouté la voix du diable. Le diable est menteur dès le commencement. Quand il vous dit tu seras libre, il vous dit un mensonge. Le péché ne rend jamais libre, le péché rend esclave. Des addictions. Combien de gens sont liés par des addictions ? Ils n'arrivent plus à s'arrêter de pécher. Ils voudraient, ils n'y arrivent plus. Commencez par la cigarette. Mais ça, c'est rien encore. C'est un poison qui tue le corps à petit feu. Mais il y a des péchés beaucoup plus graves avec le corps ou avec l'esprit. Suivre Dieu, c'est le meilleur pour le chrétien. Parce qu'auprès du Père, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons la paix. Nous avons la justice, nous avons la liberté, la vraie liberté, de dire non au mal, justement, de faire des choix profonds et vrais. Et la vie chrétienne n'est pas ennuyeuse du tout, c'est une vie au contraire pleine d'aventures. La foi est une vie d'aventure. Il y a la Bible pour les jeunes qui s'appelle la Bible de l'aventure. Pourquoi ? Parce que quand on suit le Seigneur, il y a des aventures. Hein ? Et c'est passionnant de suivre le Seigneur. Mais il faut être entier. Par exemple, lorsque je choisis un conjoint, lorsqu'on est jeune, on est appelé un jour à se marier, pas tous, hein, mais on y pense. Quel conjoint vais-je choisir ? Et quand on est chrétien un peu mondain, on ne va pas choisir quelqu'un de spirituel, on va choisir quelqu'un qui correspond un peu à notre mondanité, et peut-être même quelqu'un qui n'est pas croyant, peu importe du moment qu'on s'entend bien, du moment qu'il y a le coup de foudre. C'est pas comme ça qu'on choisit son conjoint. Le choix d'un conjoint doit être fait très très méticuleusement, parce que ça va avoir des conséquences très très importantes sur le reste de votre vie. On peut dire oui, mais on peut toujours divorcer. Alors si vous démarrez comme ça, vous êtes mal parti, c'est sûr. Si vous pensez au mariage en disant « je vais divorcer », c'est pas ça. Bien sûr, il y a des gens qui divorcent, mais regardez les dégâts du divorce. Sur les enfants, quand il y en a, et sur la personne. Beaucoup de gens sont devenus pauvres en France parce qu'ils ont divorcé. Ils ont perdu la moitié de leurs biens qui n'étaient déjà pas beaucoup. Mais ça, c'est rien encore d'être pauvre. Mais c'est les dégâts psychologiques. Alors il faut bien choisir son conjoint. La Bible dit qu'on doit choisir son conjoint dans la foi. Il faut se marier dans la foi. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie de quelqu'un. La relation avec Dieu, pour un chrétien, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et si je me marie avec quelqu'un qui n'a pas cette relation avec Dieu, pour qui ça n'a aucune importance, on ne pourra pas partager cet élément-là. Et je vais rater, passer à côté de beaucoup de choses, et il y aura beaucoup d'incompréhensions et de problèmes, parce que j'ai mal choisi. Bien sûr, on était amoureux, c'était super, on s'amusait ensemble, mais ce n'est pas ça le mariage. Ça, c'est pour s'amuser, mais le mariage, c'est sérieux, on construit ensemble. Pour construire, il faut quand même être unis. Il faut aller dans la même direction. On ne choisit pas son conjoint juste parce qu'on s'est rencontré, parce qu'on a eu le coup de foudre. Parce même, c'est pas seulement les sentiments. Il faut qu'il y ait vraiment une édification. Est-ce que cette personne me fait du bien spirituellement, m'élève? Est-ce que cette personne m'aime inconditionnellement? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je veux me donner à cette personne? Voilà les critères un peu, hein, pour choisir son conjoint dans la foi. Mais il y a aussi le choix de mes activités. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Qu'est-ce que je fais de mes heures? Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est un choix. Vous pouvez dire, oui, mais moi, on m'impose mon emploi du temps. Pas tant que ça, en fait. Bien sûr, si vous travaillez ou si vous allez au lycée ou au collège, vous avez des heures, il faut être là, présent. Mais il y a plein d'heures libres. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Est-ce que c'est juste égoïste pour vous-même? Ou est-ce que vous dites, mais il faut que je pense à l'avenir. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et puis, les réactions. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne choisissent pas leur vie. Ils sont en réaction. Par exemple, il y a des personnes qui ont eu une enfance difficile. Et je ne donne pas de détails, difficile. Et au lieu de surmonter, de choisir comment ils veulent être, ils sont ces enfants en souffrance toute leur vie. Et ils subissent cette souffrance toute leur vie. Et ils sont tout le temps en réaction contre ça, contre les autres. Et ils ne surmontent pas cette souffrance. Pourtant, avec Dieu, on peut surmonter la souffrance. Ça ne veut pas dire que c'est guéri à jamais, il n'y a plus de cicatrices. Non, les cicatrices sont là. On a toujours ces choses qu'on a vécues dans son enfance qui restent gravées. Mais on n'est pas obligé de tout le temps être en réaction. On peut être simplement soi-même rempli du Saint-Esprit. Dieu peut guérir les choses qu'on a vécues. Il y a même ce qu'on appelle la résilience. Hein. C'est ceux qui, d'une souffrance ou d'un problème qu'ils ont vécu, en font quelque chose, une qualité, une victoire. Est-ce que j'ai des réactions spirituelles ou est-ce que j'ai des réactions charnelles à la vie, aux circonstances? Ça se choisit, vous dites, mais moi, j'ai pas de chance, je suis malade, j'ai une grave maladie. Mais vous pouvez choisir, vous n'avez pas choisi la maladie, ça c'est sûr, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez à la maladie. Comment vous la vivez tous les jours, cette maladie? Ça, c'est un choix. On ne choisit pas les circonstances de la vie. Beaucoup de choses nous arrivent, mais on choisit comment on veut réagir dans ces circonstances. Par la foi, par l'esprit ou par la chair et par le doute. C'est là où réside notre choix. Comment faire les bons choix? Je terminerai avec ça ce matin. Bien, Josué nous l'a dit. Choisissez qui vous voulez servir. Et le mot servir, c'est pas simplement être serviteur, c'est l'idée d'adorer, l'idée d'aimer, l'idée de suivre. Et pour faire les bons choix, il faut suivre le Seigneur. C'est assez simple, en fait. Parce que quand on suit le Seigneur, il nous amène au bon endroit, c'est notre berger. On n'a pas à essayer de tout comprendre, de tout calculer, de tout maîtriser, on ne peut pas. Par contre, suivre le Seigneur, on peut le faire. On peut toujours rester les yeux sur lui, même si on est handicapé. Joni Erickson Tada, hein, cette jeune américaine qui a écrit des livres, qui a fait des chansons, qui a fait beaucoup de messages pour les femmes et pour les églises, elle est devenue tétraplégique, hein, à 16 ans. Une fille pleine de vie, de vitalité, sportive. Elle a plongé et elle s'est pris un rocher, brisé sa nuque et elle n'est pas morte, mais elle est devenue tétraplégique. Qu'est-ce qu'elle a fait, Joni Erickson? Est-ce qu'elle s'est lamentée jusqu'à aujourd'hui? Non, elle s'est lamentée au début. Ça, elle en a bavé. Mais dans son épreuve, elle avait un ami chrétien qui était près d'elle. Et elle a ouvert son cœur au Seigneur à un certain moment. Et d'un seul coup, Dieu a changé sa vie. Son handicap n'était plus un handicap. Elle louait le Seigneur. Et elle a fait plein de choses. Comme je vous ai dit, elle a encouragé des milliers, des centaines de milliers de gens. Elle a écrit des chansons, elle s'est mariée. Elle fait des peintures avec la bouche. Mais même, ça, c'est rien. Elle fait plein de choses, cette femme. On peut toujours glorifier Dieu, mais il faut rester les yeux sur lui. Jacques 1, 5 nous dit cette vérité très, très importante quand on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Souvenez-vous de ce verset, Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ne sait pas quoi faire, quoi dire, quoi décider, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous êtes devant une décision, vous êtes devant un choix, demandez à Dieu, mais attendez sa réponse. Ne dictez pas à Dieu sa réponse. Combien de fois ça nous arrive? Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, hein? Tu me confirmes, hein? Il faut aller à droite, là, hein? Non. Dieu n'a pas à confirmer ce que je veux. Dieu n'a pas à bénir mes projets. Dieu a ses projets pour moi. Et c'est à moi d'entrer dans ses projets, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et j'attends ta réponse, Seigneur. Je cherche ta réponse. Je cherche ta face. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Il faut chercher, il faut lire la Bible, il faut demander conseil, il faut prier jusqu'à ce que la réponse soit claire et nette. Clarinette, comme on disait. Hein. Qu'il n'y ait pas de doute, qu'on soit pleinement dans la foi. Seigneur, tu me montres ta volonté maintenant, c'est clair pour moi. Je suis convaincu que ça vient de Dieu. Je ne me suis pas convaincu moi-même, mais j'ai cette certitude, cette paix qui vient du Saint-Esprit. Tant qu'on est troublé, il manque la paix du Saint-Esprit qui nous donne l'assurance que c'est la bonne décision. Salomon s'est retrouvé en tant que jeune homme à être roi, devenir le roi d'un grand pays qui était en pleine expansion. Il avait connu, son père était roi avant lui, mais il s'est rendu compte que la tâche était trop élevée. Il s'est dit, je ne peux pas, c'est trop grand, j'ai trop de décisions à prendre, je ne saurais jamais. En plus, le roi était appelé à juger souvent, à rendre des jugements. Mais il dit, comment je vais rendre des jugements? Je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon. Et il a imploré le Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse plus que toute autre chose. Et Dieu lui a donné cette sagesse qui a permis les jugements de Salomon. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation comme cela. Vous avez des responsabilités, vous avez des choix à faire. Vous êtes devant, l'avenir est devant vous, vous avez des décisions. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, donne-moi la sagesse. Cherche la sagesse plus que toute autre chose. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous avez la sagesse, ça vaut tout l'or du monde. Et que le Seigneur nous éclaire dans toutes les décisions et qu'on soit des chrétiens qui choisissent, pas des chrétiens qui subissent. Amen et amen.